Hello, hello, merci beaucoup déjà d'être passé sur la chaîne de l'Afropolitaine. Alors avant de débuter l'épisode, je vais te demander de t'abonner sur la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et je te remercie du coup de ton passage ici. Bon épisode.
Je sais pourquoi l'oiseau en cage chante. C'est l'histoire d'une grande dame, c'est l'histoire d'une grande auteure.
Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes africaines. Parce que chaque Afropolitaine a un parcours différent qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes africaines se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir les parcours différents, inspirants et captivants de ces femmes. Aujourd'hui, j'ai l'occasion et l'immense privilège de vous faire découvrir Éléonore. Hello Éléonore.
Bonjour, ravie d'être avec toi.
Comment tu vas?
Mais ça va. Ça va pas mal après ce confinement très long.
Ouais,
on n'en sort pas, on est dans la phase du post-confinement, mais on a l'impression qu'on est encore un peu enfermé. Je passais devant le Louvre là tout à l'heure, c'est fermé. Les cinémas ne vont ouvrir que là prochainement, donc ça commence à faire très long tout ça.
Ouais, c'est vrai que c'est vraiment très très long. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté de participer
merci
à ce podcast.
Merci pour l'invitation.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie?
Alors moi, je suis donc j'ai fait des études de communication et puis très vite j'ai commencé à travailler à l'Assemblée nationale. J'ai eu la chance de devenir collaboratrice parlementaire. Donc pour un député, je vais taire le nom si vous permettez. Mais ce qui était intéressant, donc bien sûr j'ai fait ce travail parlementaire pendant presque 5 ans, et ensuite j'ai fait une campagne présidentielle.
D'accord.
J'ai fait une campagne présidentielle, donc j'étais membre de ce comité de campagne, et donc j'ai accompagné ce parlementaire, j'ai fait cette campagne présidentielle, et ça a été pour moi effectivement, moi qui n'ai pas fait Sciences Po, ça a été mon Sciences Po à moi, parce qu'effectivement tu dois tout apprendre en fait, hein, tu dois t'intéresser à l'actualité, tu dois connaître le système des lois, le système de comment est-ce qu'on fait une loi, comment est-ce qu'on la discute, comment est-ce qu'on en parle avec des partenaires. Enfin, il y a tout un environnement, il y a tout un cadre comme ça que tu dois connaître. Donc ça a été très très formateur pour moi, et en plus la campagne présidentielle, ça accélère bien sûr tout ça, donc c'est valorisant, c'est quand même pas mal. Donc j'ai fait ça, et puis ensuite je me suis tournée vers le monde de l'entreprise, et là j'ai travaillé dans des secteurs très différents, auprès de chefs d'entreprise comme attaché de direction ou chef de cabinet parfois, aussi bien pour des grandes entreprises comme Pernod Ricard, Halliburton, récemment l'Union de la presse en région, auprès de personnalités, je vais éviter de citer les noms comme ça, parce que c'est pas très bien de citer les noms, donc je vais éviter de citer les noms. Mais voilà, l'audiovisuel de la France qui est devenu aujourd'hui France Monde et tout, donc bon, ceux qui savent l'histoire sauront quelle est la personnalité qui était derrière. Donc j'ai travaillé comme ça pour tout un tas de personnes. Et puis, mais en même temps, c'est vrai que, alors c'est très, comment dire ça, ça paye bien, on a quand même une situation sociale en vue, et puis moi j'ai toujours réussi à m'imposer en fait, j'ai jamais eu de problème de, lorsque je vais à un entretien de travail, je me dis pas, alors si parfois au début, avant, quand j'étais beaucoup plus jeune un peu, ouais mais je suis noire, est-ce que machin et tout, est-ce que, mais après j'ai pris de l'assurance, et donc je savais que je pouvais tabler sur mes compétences. J'avais des compétences, vous me prenez pour mes compétences ou vous me prenez pas, et donc ce qui me permettait d'arriver à des entretiens de façon très à l'aise avec mon afro. Bon, il a rapetissé mon afro, mais à l'époque il était quand même beaucoup 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 plus volumineux que ça, avec mon afro. Et je me souviens d'ailleurs que lorsque je me souviens d'un entretien d'embauche où j'ai été embauchée d'ailleurs, où j'allais à cet entretien avec mon afro. Et ça s'est très très bien passé avec ce monsieur, on a discuté, on a refait le monde ensemble, il m'a prise avec lui, j'ai travaillé pour lui. Et puis la première fois où j'organise un comité de direction ou quelque chose dans ce genre, en tout cas une réunion importante, il me voit arriver et le matin et tout ailleurs, et puis mon afro. Et puis il me dit, mais Éléonore, lorsque je vous ai recrutée, vous aviez ces cheveux-là? Je dis, oui, j'avais ces cheveux-là. Il n'y a pas possibilité de faire quelque chose? Non, il n'y a pas possibilité de faire quelque chose. Mes cheveux, je les garde comme ça. Et c'est passé, il ne m'a plus jamais fait de remarques. En fait, pendant l'entretien, on s'était tellement bien entendu, l'échange était tellement bien qu'en fait, il avait oublié que j'avais porté un afro, et c'est quelques, des mois après qu'il s'en était rendu compte. Lui, parce que lui craignant, en fait, qu'on lui fasse des remarques sur sa collaboratrice qui aurait un afro. Et donc, ça s'est très très bien passé. Et donc j'ai jamais eu comme ça cette sensation que peuvent avoir beaucoup d'autres femmes, et ça je noire, et ça je l'entends et je le comprends, parce que j'ai rencontré des jeunes femmes sur mon chemin effectivement très mal à l'aise, pas à l'aise du tout lors d'entretiens. Donc je sais qu'effectivement tout ça, ça peut jouer, mais en tout cas moi ça m'a jamais handicapé. Non, et puis c'est aussi lié un peu à mon caractère un peu frondeur, un peu fonceur, donc voilà, donc j'y suis toujours allée. Donc après cette expérience, à côté de cette expérience du monde de l'entreprise, j'ai toujours été à l'écoute de ce qui se passait, en tout cas pour de ce qui se passait politiquement dans le milieu du militantisme. Mm-hmm. Et donc comme j'ai travaillé donc auprès d'un parlementaire, j'ai dû travailler également avec un parti politique. J'ai adhéré à ce parti politique. J'ai représenté un peu les couleurs de l'Afrique, enfin dans un groupe qu'on avait avec d'autres collègues. J'ai créé une tendance qui s'appelait Couleurs de Vert. Enfin bon, c'est chez les Verts, donc voilà, comme mm-hmm. ça je vends la mèche. Donc c'est chez les Verts, donc une ça s'appelait Couleurs de Vert. Donc voilà, donc j'avais quand même ce prisme-là très très politisé, si je puis dire, mais en même temps ça revient de beaucoup loin et j'en parlerai, mais j'avais quand même ce prisme-là. Donc bien sûr j'ai adhéré, enfin en tout cas j'ai milité au sein de ce parti, et puis aussi au sein du CRAN, je préfère oublier, au sein du CRAN, et puis aussi à côté de cela je faisais du journalisme, donc j'ai découvert la radio, on en reparlera certainement, et puis depuis quelques mois maintenant je collabore pour le magazine Diva, qui est un magazine afro-féminin, et je fais de la radio donc pour une émission qui s'appelle Dubout.
Eh ben, tu fais tellement de choses en même temps. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup avec Éléonore, c'est que on sent que tu mets tout ton cœur dans ce que tu fais.
Ouais, je suis une passionnée. C'est vrai
c'est très beau à voir, en tout cas.
C'est gentil. Merci beaucoup.
Et justement, en parlant de l'émission de radio que tu animes, Dubout, une émission qui est créée et produite par Lucien Gabarin, qui est technicien à la radio Fréquence Paris et Pluriel. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce sujet, sur ce projet et sur toutes les thématiques que tu abordes, en fait?
Alors, à Dubout, donc c'est une aventure assez incroyable, parce qu'au départ donc il y a Lucien, il y a Théo, qui sont donc mes camarades de lutte, si je puis dire, et au départ en fait on est ensemble pour animer des conférences. On animait des conférences notamment dans le cadre de la semaine anticoloniale qui s'est tenue pendant plus de 10 ans à la Bellevilloise tous les ans. Et donc effectivement avec donc le patron de la semaine anticoloniale qui s'appelle toujours, parce qu'il est là, Patrick Farbiaz, on le sollicitait régulièrement pour lui proposer d'organiser des conférences. Et donc on a organisé des conférences contre le franc CFA. Moi j'avais proposé la thématique du corps des femmes racisées en milieu occidental. On a fait des conférences sur tout un tas de sujets de ce genre. Lorsque Malak Shabazz, donc la fille de Malcolm X et de Betty Shabazz, est venue en France, on a fait des conférences aussi avec elle et tout ça. Donc on a organisé comme ça tout un tas de conférences. Et puis eux, ils ont lancé, à côté de cela, ils ont lancé cette émission ARFPP, donc Radio Fréquence Paris Pluriel, cette émission qui s'appelait Dubout. Donc au départ, ils m'en parlaient comme ça, mais bon, moi ça rentrait d'un côté, ça sortait de l'autre, parce que je me suis dit, c'est peut-être pas trop pour moi, enfin j'étais pas trop en tout cas dans cette optique-là. Et puis un jour, Théo, qui animait donc cette émission, me dit, ben Éléonore, est-ce que ça te dirait pas de venir de temps en temps faire des petites chroniques comme ça, pour parler et tout, comme tu parles bien, et puis j'ai dit, d'accord.
Confiant.
Bon, c'est gentil. Et donc, comme d'habitude, j'écris, parce que moi, il faut que j'écris, parce que sinon, c'est pas possible. Donc, j'écris. Et puis, je trouve des thématiques, notamment le premier papier, je me souviens, c'était Nos cheveux, notre bataille. Alors bien avant que ça redevienne maintenant très nos cheveux, notre bataille, j'en avais parlé effectivement longuement, j'ai fait référence à Juliette Smeralda qui avait qui a mené campagne là-dessus sur les peaux et sur le cheveu. Donc c'est un papier qui a été très bien accueilli, et puis ensuite j'ai fait d'autres papiers sur Colin Kaepernick qui revient à la mode aujourd'hui, mais c'était au tout début personne ne savait vraiment qui il était, notamment ici en France. Aujourd'hui, son combat pacifique redevient à la mode. Donc, j'ai fait un papier sur Colin Kaepernick. J'ai fait un papier sur Fidel Castro au moment de sa mort, parce que je trouve qu'effectivement, Fidel Castro fait partie du panthéon des libérateurs de l'Afrique, ou en tout cas de ceux qui ont accompagné la libération de l'Afrique. Ça c'est pas beaucoup su, mais Fidel Castro, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup œuvré bien sûr en Angola, mais également dans la libération de Nelson Mandela. Enfin bon, il y a comme ça, il faut connaître cette histoire et il faut pas avoir ce regard uniquement occidental. De ce genre de personnalité. Et moi, je voulais effectivement réhabiliter Fidel Castro au moment de son décès. Voilà, donc c'est ça, c'était un peu les chroniques que j'ai les quelques papiers que j'ai rédigés pour les billets d'humeur, comme on appelait ça. Et puis petit à petit, Théo m'a laissé la place. Et puis je me suis retrouvée seule aux commandes. Alors au début, j'étais pas très sûre de moi, donc j'avais mon pote Samuel Legitimus qui était avec moi, ou bien j'avais mon autre pote Emmanuel Bramban qui m'accompagnait. Donc Samuel Legitimus que tu connais puisqu'il est le président fondateur du collectif James Baldwin. Emmanuel Bramban, elle c'est une militante, une fervente militante de la cause indigène d'Amérique du Sud, pas latine, ils aiment pas qu'on dise latine, d'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, les Papous, les Aborigènes et tout ça. Et donc, j'étais quand même très bien accompagnée comme ça de ces personnes qui apportaient aussi leur savoir, leurs connaissances, leur expérience. Et donc, on faisait comme ça on forme comme ça une petite équipe. Là, ça a un peu ralenti avec le Covid-19. Mmh. Hein, on a un peu ralenti les activités. On essaie de relancer ça via notamment des Zooms. Donc, il n'y a pas très longtemps, j'ai interviewé Réléma. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu Mireille Fanon, Mendes France, comme en interview avec Lamine Sagna. Enfin, je relance comme ça des interviews via Zoom, mais l'émission est toujours là, tous les mardis soirs, 20h30, 22h30, sur RFPP.
En tout cas, j'ai eu l'occasion de l'écouter. Honnêtement, c'est une très, très belle émission. C'est des thématiques qui sont sérieuses et en même temps, on a besoin justement d'avoir des invités de qualité.
De qualité.
Parce que, qui sont en mesure justement d'aborder, toutes les thématiques.
Toutes les thématiques. Hamzat Boukhari aussi que j'ai eu il y a pas très longtemps sur, sur une histoire de l'antiracisme en France. On en parle beaucoup en ce moment. Et donc, c'est intéressant d'avoir justement le point de vue de cet historien qui est quand même très important. C'est quoi l'histoire de l'antiracisme en France? Et voilà, il y a deux pans comme ça. Il y a effectivement l'antiracisme moral ou d'État, comme certains disent, et puis, ou universaliste aussi. Et puis, de l'autre côté, il y a un antiracisme politique, militant, incarné par des personnes, effectivement, qui sont parfois victimes de ce racisme. Et parfois, il y a des clashs et il y a effectivement des difficultés de compréhension. Et c'est comment expliquer comment est-ce que ces deux pans de l'antiracisme existent. Et ça, Hamzat Boukhari l'a très bien fait.
Tout à fait. Et en parlant du collectif le collectif James Baldwin dont tu fais partie, je voulais justement te demander, avant d'évoquer en profondeur les raisons d'existence de ce collectif, est-ce que tu pourrais déjà nous dire qui est James Baldwin?
Alors James Baldwin, c'est une figure, c'est vraiment une figure marquante de l'histoire de la littérature américaine dans son ensemble et noire américaine en particulier, parce que c'est pas seulement noir américain, c'est largement au-delà. C'est d'abord un auteur. C'est un auteur prolifique qui a effectivement écrit, qui a parcouru tous les genres en fait, aussi bien le roman que le théâtre, que les essais, que les nouvelles. Il a même écrit un scénario qui n'a pas vu le jour, parce qu'il s'est pas entendu avec les studios à Hollywood, mais il a écrit le scénario d'un film sur Malcolm X, tiré de la biographie d'Alex Haley, Alex Haley que l'on connaît pour le film Roots, enfin la série Roots, la série Racine. Ça n'a pas abouti, mais il a écrit tout un tas de livres absolument incroyables. Donc c'est d'abord un auteur à lire. Ces livres, effectivement, la question centrale de la littérature ou de l'écriture de James Baldwin, c'est la question, la notion de race. la race noire et la race blanche. Comment est-ce qu'elle vit ensemble? Comment est-ce qu'elle est confrontée? Comment est-ce qu'à un moment donné, si ces deux entités que sont ces deux races n'arrivent pas à s'entendre, les États-Unis, en tout cas, pour lui, selon lui, sont amenés à dépérir. Il n'y a pas de salut sans cette réconciliation pour les États-Unis. Et c'est très fort parce que je pense qu'il est l'un des premiers à avoir abordé cette question-là, mais pas seulement sous l'angle pas sous l'angle social, mais sous l'angle aussi de la psychologie. Un peu ce qu'a fait plus tard France Fanon. France Fanon, lorsqu'il fait Peau noire, masque blanc, il essaye effectivement, sous l'angle de la psychologie, puisqu'il était psychiatre, Fanon, d'expliquer ce rapport entre noir et blanc. Et c'est ce que fait Baldwin avec une écriture moins scientifique, parce que c'est vrai que Peau noire, masque blanc, c'est quand même...
Des fois, c'est laborieux.
C'est laborieux. Moi, je le trouve un peu misogyne sur les bords, mais bon, faut pas le dire trop fort. Surtout que je connais sa fille, donc faut pas que... Voilà, elle va me tirer les oreilles. Donc, voilà. Mais c'est vrai que Baldwin le fait de façon moins lourde, en tout cas. C'est beaucoup... C'est plus compréhensible. Et tout de suite, on est saisi par l'écriture, parce qu'il a une écriture absolument lumineuse, il a une écriture absolument fantastique. Et donc, tout de suite, on est pris par l'écriture de Baldwin. Et ce qui est aussi absolument incroyable, c'est qu'il couvre tous les champs, c'est-à-dire aussi bien sûr le champ politique, mais aussi le champ... il a un livre que moi j'aime beaucoup et dont je relis avec plaisir, c'est Le diable trouve à faire, qui est un livre en fait sur le cinéma. Et donc là, il décortique le cinéma de son époque, bien sûr, et son ami Sidney Poitier, qui était son ami quand même, il le désingue dans ce livre-là, parce qu'en fait, Sidney Poitier, dans ses films de bon noir, devine qui vient dîner ce soir, pour James Baldwin, c'est pas possible.
c'est vrai que ça avait choqué.
Voilà, le bon noir comme ça, j'ai fait des études, machin et tout. En fait, c'est certes peut-être effectivement un noir en devenir, mais ça ne raconte pas la réalité du noir de cette époque-là. Et la personne aussi que je trouve très intéressante dans ce film-là en particulier, dans Devine qui vient dîner, c'est la bonne.
Ouais, la domestique. Ouais.
La bonne noire, qui alors elle, qui est absolument outrée, absolument horrifiée de cette relation entre cet homme noir et cette jeune femme blanche. Et donc, voilà, et il en parle dans ce livre que je trouve absolument extraordinaire, de ses rapports aussi, de ses rapports de tension entre les races, de ses rôles de noir. Ses rôles de noir, par exemple, alors j'ai oublié les noms de ces acteurs que l'on connaît tous, hein, les acteurs que l'on voit, qu'on a vu dans les films dans les années 40, 50, 60, souvent des seconds rôles, qui sont ou l'air complètement abruti de fatigue ou de bêtise même, avec comme ça, ou alors apeuré, totalement apeuré par leur environnement. Alors en même temps, c'est vrai que je le trouve un peu dur, mais je pense que ces rôles-là reflétaient aussi la condition noire de cette époque-là. C'est-à-dire à cette époque-là, c'est où tu rigolais à tout ce qu'on te disait, quitte à paraître bête, où tu étais apeuré de ne pas faire ce qu'il fallait. Mais James Baldwin, lui, en tout cas, pointe ça de façon assez remarquable et il essaie en tout cas d'en faire, en tout cas son livre, Le diable trouve à faire, qui a été traduit il n'y a pas très longtemps et que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies, sur le cinéma, c'est un livre absolument incroyable.
Tout à fait.
Donc James Baldwin, c'est d'abord un auteur. C'est d'abord un auteur à lire. Ensuite, c'est un témoin de son époque. C'est-à-dire, en tant qu'homme noir, il est témoin d'une époque où, effectivement, être noir, c'est, aux États-Unis notamment, c'est dangereux. Et donc, lui, il a expérimenté très jeune le racisme. Il a subi les violences policières assez rapidement. Il en parle dans ses écrits. Il vient en France très vite en 48. Il a quasiment pas d'argent, mais il vient en France en 48. Là, il découvre, il se découvre auteur, mais ça n'empêche qu'il a aussi subi du racisme en France. Les gens ne le disent pas beaucoup, mais il a aussi subi du racisme en France. Il a été accusé notamment d'avoir volé une paire de draps dans un hôtel. Il a été mis en prison. Donc il a subi aussi ce racisme en France. Mais c'était pas le même racisme qu'aux États-Unis, où aux États-Unis, à chaque fois qu'il sortait de chez lui, il y avait un risque de mort. En France, c'était différent. Et donc, il a quand même pu effectivement poursuivre son petit bonhomme de chemin et il a pu se réaliser en tant qu'auteur. Ça ne l'empêchait pas de continuer à regarder ce qui se passait autour de lui et notamment, il a pris fait de cause pour les Algériens. Lorsque, pour lui, les nègres de France à l'époque, c'était les Algériens. Et donc, il a accompagné ce mouvement, il a suivi un peu tout ça, et puis revient aux États-Unis. Et lorsqu'il revient aux États-Unis, notamment lorsqu'il voit cette jeune femme noire, cette jeune fille à l'époque, qui avait 15 ans, intégrer un collège blanc et qui se fait accracher dessus, cette image que nous avons tous en tête, elle s'appelait Dorothy Kantz, cette jeune femme. Quand effectivement Dorothy Kantz doit entrer dans ce collège de blanc et qu'il voit ces images-là ici en France, il se dit « mais je peux pas rester ici tranquille, pépère ». Et laisser les gens là-bas se battre sans moi. Et donc, il décide de rentrer aux États-Unis. Très vite, il rencontre Malcolm X. Très vite, il rencontre Medgar Evers d'abord, Malcolm X, Martin Luther King. Et il accompagne tout ce mouvement de questionnement sur les Noirs. Et il est témoin de tout cela. Jusqu'à l'époque des Black Panthers, parce qu'il a aussi accompagné les Black Panthers. Il a écrit une lettre formidable, une lettre ouverte au moment où Angela Davis est emprisonnée. Il écrit une lettre ouverte, lettre à ma sœur Angela Davis, pour justement demander sa libération. Il s'est fait fortement attaquer justement par Eldridge Cleaver, notamment à cause de son homosexualité. Mais il était là, il était présent, il a accompagné tous ces mouvements, que ce soit financièrement, que ce soit de par sa présence, que ce soit par ses écrits, il a accompagné tout ça. Donc c'est un vrai témoin de cette époque. On va pas dire militant, parce qu'effectivement, comme il le dit lui-même, il se voyait pas militant. Mais il représentait quelque chose de fort, et c'est pas pour rien que dans ces années-là, faire la couverture du Time pour un noir, c'était assez exceptionnel, et il a fait la couverture du Time, et il était invité partout. À Oxford, ici, il a une conférence que l'on peut voir sur les réseaux sociaux face à un monsieur qui est quand même plutôt conservateur sur les questions raciales, où il est, tous les étudiants d'Oxford à ce moment-là se lèvent pour l'applaudir tellement lorsqu'il dit, lorsque je regardais les films de western, et que j'applaudissais de voir les cow-boys assassiner les Indiens, et que je me rendais pas compte que ces Indiens, en fait, c'était moi. C'est tellement fort, c'est tellement beau, c'est tellement bien qu'effectivement, chaque peuple opprimé, si je puis dire ça comme ça, ou chaque peuple minoré, se retrouve dans ce discours. Et c'est pour ça que James Baldwin est d'hier, mais il est aussi d'aujourd'hui.
Totalement. Et d'ailleurs, ce que tu dis est tellement fort, et ça fait écho justement à ma prochaine question. Au vu de l'actualité qu'on vit en ce moment, est-ce que tu penses que le discours de James Baldwin est toujours d'actualité? Et si c'est le cas, pourquoi? Et à ton avis, qu'est-ce qu'il aurait dit, en fait, s'il pouvait voir ce qui se passe aujourd'hui?
Il est totalement d'actualité. C'est-à-dire que moi, j'ai une... Oui, c'est-à-dire quand il dit à un moment donné que les États-Unis sont dans l'obligation de réfléchir à la question raciale, sinon ce pays dépérira. Enfin, il dit ça de façon beaucoup plus poétique que moi. On est complètement dans la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire la situation d'aujourd'hui, mais malheureusement je ne sais pas si ce ne sera pas aussi la situation de demain, parce que je ne sais pas si on arrivera à un moment donné à trouver des solutions pour régler cette question-là, mais aussi bien aux États-Unis qu'en France, parce qu'aujourd'hui on a l'impression en France que l'on découvre un phénomène, avec notamment la manifestation organisée par le collectif Adama et Assa Traoré, mais c'est aussi bien au Brésil. Enfin, quand on voit ce qui se passe au Brésil, c'est pareil. En Angleterre, c'est pareil. C'est-à-dire que la question, effectivement, le questionnement de James Baldwin hier sur la race continue à être pertinent aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas déconstruction de ces notions. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les mouvements décoloniaux, que l'on prend comme ça à travers, comme ça, de façon très en le repoussant ou en l'évitant, c'est un mouvement qui est important, parce qu'effectivement là on est dans une réflexion de comment est-ce que tout ce que nous avons appris auparavant, que ce soit dans l'histoire de l'art, que ce soit dans l'histoire tout court, que ce soit dans la géographie, que ce soit dans les rapports sociaux, c'est comment est-ce qu'à un moment donné on donne on interprète autrement ces données-là, et comment est-ce qu'on tente d'avoir un regard hors Occident, mais en tout cas désoccidentalisé sur l'histoire du monde. Aujourd'hui on est quand même dans une histoire écrite par les Occidentaux, par les vainqueurs d'hier, mais ces vainqueurs d'hier, est-ce qu'ils sont encore les vainqueurs d'aujourd'hui? Lorsque l'on voit la gestion de la crise du Covid-19, on peut se poser la question, et on se dit que non, ces États-là aujourd'hui sont faibles. quand on voit que les États-Unis a failli, la France a failli, l'Angleterre a failli, le Brésil a failli, donc ça veut dire que tous ces pays-là aujourd'hui sont faibles. Et donc c'est comment est-ce que moi, ça fait longtemps que je prône, pardon de dire comme ça, ça fait très femme politique en campagne et tout ça, mais voilà, des rapports sud-sud, c'est-à-dire c'est comment est-ce qu'à un moment donné, tout comme il y a eu la conférence de Bandung dans les années 50, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, il y a une espèce de solidarité sud-sud qui se crée. Est-ce que ça doit partir de la Chine, via le Brésil, via le Venezuela, via l'Europe, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut qu'il y ait comme ça un autre regard sur les situations que nous vivons aujourd'hui. Et James Baldwin, je pense qu'il se serait absolument retrouvé dans ce qui se passe aujourd'hui. N'oublions pas quand même qu'en parlant de solidarité sud-sud, en 1956, il a fait partie de ce premier congrès des artistes et écrivains noirs à la Sorbonne. Mmh. Et ces artistes et écrivains noirs à la Sorbonne qui s'inscrit comme ça dans cette longue lignée de ces conférences qui se sont tenues pendant très longtemps entre les noirs un peu partout à Manchester et ailleurs, James Baldwin en a fait partie. Et là, c'était l'idée déjà de comment est-ce que toutes les énergies noires se rassemblent pour tenter de proposer de proposer en tout cas un autre modèle culturel, politique et social. Et on est complètement, je pense qu'aujourd'hui on est dans cette dynamique-là. Qui aurait imaginé qu'après le post-confinement ou que l'idée du monde d'après, ce serait la question raciale. Personne n'aurait misé un copec là-dessus. Et on est quand même dans ce rapport où les manifestations auxquelles on a participé, on est tous dedans. On est tous blancs, noirs, jaunes, verts, homo, pas homo, vieux, et parents, etc. On s'est tous sentis concernés parce qu'à un moment donné, oui, la question raciale dépasse même nous noirs, mais ça a toujours été aux États-Unis. On oublie que Martin Luther King était accompagné de juifs, de blancs, de rabbins, etc. Et c'est bien qu'aujourd'hui aussi cette question soit portée pas seulement par nous noirs, mais qu'elle soit largement partagée. Et ça, je suis sûre que Baldwin, les valeurs humanistes de Baldwin auraient accepté ça, auraient porté ça.
Totalement, et c'est tellement vrai ce que tu dis. Et du coup, j'ai une question aussi par rapport au collectif de James Baldwin. Pourquoi James Baldwin? Pourquoi avoir choisi James Baldwin et pas quelqu'un d'autre?
Alors ça, il aurait fallu poser ça à l'ami Samuel. Mais Samuel, c'est vrai que Samuel Legitimus, qui est le fondateur, le président de ce collectif, il est dingue de James Baldwin depuis toujours, parce qu'effectivement, il s'est retrouvé dans l'écriture, et je pense justement les valeurs que défend James Baldwin l'ont toujours inspiré. Mais c'est un collectif, effectivement, enfin en tout cas la figure de James Baldwin, elle est transcendantale, tout le monde peut le prendre, le comprendre et l'analyser. Alors il faut une analyse quand même fine, parce que c'est vrai qu'il faut pas non plus faire de raccourcis sur l'humanisme universaliste, si je puis dire. C'était, pour moi en tout cas, de mon point de vue, c'était beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est vrai que il y a des textes, par exemple, j'ai vu une conférence sur Facebook, une conférence qui était centrée sur la figure de James Baldwin, où il y a un professeur qui dit James Baldwin, en fait, ce qui était absolument fabuleux chez lui, c'est son amour de son peuple, l'amour de son peuple. Et pourtant, parfois, il a été dur avec lui, ce peuple, parce que lui, il était quand même, n'oublions pas qu'il était homosexuel. Être homosexuel dans les communautés noires, qu'elles soient africaines, antillaises, américaines ou peu importe, on sait ce que ça vaut, que ce soit hier ou que ce soit encore aujourd'hui. Mais ça n'empêche qu'il a défendu ce peuple jusqu'au bout, il l'a porté, il a été l'un des porte-voix. Lorsqu'il revient en France, il sait très bien qu'il revient en France parce que il aurait très bien pu être le quatrième, après Medgar Evers, après Malcolm X, après Martin Luther King. Il aurait pu être le quatrième, donc il est obligé de revenir en France parce qu'il porte quelque chose. Parce qu'effectivement, les Noirs, mais pas seulement d'Amérique, les Noirs se représentent dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il dit. Et je pense que tout ça, Samuel le comprend parfaitement, et c'est pour ça que la figure de James Baldwin est importante pour lui et pour ce collectif.
Tout à fait. Et malgré le fait que James Baldwin ait vécu en France, j'ai l'impression qu'il y avait comme une sorte de méconnaissance James Baldwin, comme si on l'avait complètement oublié. À ton avis, c'est dû à quoi?
Moi, je pense qu'il y a, à un moment donné, on a voulu, on l'a fait. On a glorifié les figures marquantes du mouvement des droits civiques. Alors Martin Luther King en étant effectivement le dieu, le roi, bon, à juste titre. Hein, je veux pas absolument pas du tout dire que c'est pas ça. Et puis Rosa Parks aujourd'hui, on mange des nouilles Rosa Parks, on mange des pâtes Rosa Parks, on mange machin Rosa Parks. Rosa Parks c'est partout. Et la preuve c'est qu'on veut débaptiser un collège pour le renommer Rosa Parks, comme s'il n'y avait pas de figure noire en France qui pourrait aussi habiter ces noms-là et ces titres-là. Donc on a glorifié comme ça les figures majeures des droits civiques et on a mis de côté ceux qui ont en tout cas pointé du doigt les défauts et les manques de ce mouvement. Et je crois que James Baldwin en a fait partie. C'est quoi les défauts et les manques? Quand vous lisez un livre comme le roman Si Bill Street pouvait parler, dont on parlera tout à l'heure. Si Bill Street pouvait parler, c'est un roman, c'est-à-dire en fait qui se situe dans la lignée de cette période un peu où on a perdu ses illusions. On a perdu ses illusions parce que il y a eu la fin de l'esclavage, il y a eu les lois Jim Crow qu'on a réussi à supprimer, il y a eu le mouvement des droits civiques, il y a eu quelques avancées et ensuite dans les années 70-80, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est le cinéma de Spike Lee aussi qui le dit très bien.
Tout à fait.
Lorsque l'on voit Do the Right Thing, c'est-à-dire ce film, il explose. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce désenchantement des Noirs américains après toutes ces luttes, après tous ces combats, eh ben, on se rend bien compte qu'en fait, tout ça, pourquoi en fait? Et James Baldwin a porté ça aussi, de pointer un peu du doigt cette désillusion de la communauté noire. Et je pense que ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Donc on n'a pas jugé utile de le mettre trop en avant. Ensuite, il est homosexuel aussi, faut pas l'oublier. Donc l'homosexualité, aujourd'hui on en parle, on s'empare même, enfin etc. Mais il y a encore quelques années en arrière, que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis et encore moins en Afrique ou ailleurs, c'était quand même des sujets dont on parlait en petits cercles, dans des petits cercles, mais on n'en parlait pas si ouvertement que ça. Donc il y a tout ça qui fait qu'effectivement il y a le message qu'il a porté et puis en France on est quand même dans une situation, voilà, c'est-à-dire en même temps c'était un Américain, c'était un Noir, est-ce qu'il faut, parce qu'aux États-Unis apparemment il semblerait qu'aux États-Unis il a toujours été lu, il y a eu des conférences, il a toujours été porté, et en même temps c'est vrai que c'est normal parce que des gens comme Toni Morrison, des gens comme Maya Angelou et tout ça, des gens comme d'autres auteurs ont continué à porter son discours et sa pensée. En France, on l'a totalement oublié. Alors qu'il a vécu 40 ans de sa vie en France. On l'a totalement oublié. Et c'est vrai qu'il a été décoré de la Légion d'honneur. D'ailleurs, quand il va à la Légion d'honneur par François Mitterrand, il y va avec sa domestique. Il y va accompagné de sa domestique. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a totalement ignoré, on l'a totalement oublié. Sa maison dans le sud de la France, à Saint-Paul-de-Vence, est rasée. Personne ne pense à en faire un lieu de rencontre, de pèlerinage ou quoi que ce soit, ou même de maison d'artiste ou quoi. Une maison qui a accueilli Miles Davis, Nina Simone, Harry Belafonte, etc. Et cette maison est rasée, elle est vendue comme ça à des promoteurs immobiliers qui vont en faire des parkings ou des logements de luxe. Enfin, c'est quand même assez incroyable. C'est mon téléphone qui fait du bruit, c'est pas grave, je l'éteins. C'est quand même assez incroyable que on en soit à ça, quoi. C'est dommage parce que c'est vraiment un pan d'une culture importante, mais pas seulement noire et américaine, qui est amené à disparaître. Heureusement que Raoul Peck arrive et fait ce film absolument puissant.
I'm not your Negro.
I am not your Negro. Mm. Heureusement, parce que sinon, aujourd'hui encore, on en serait à ce, on n'en serait même pas à parler de James Baldwin, si ça se trouve. Mm. Donc, heureusement. Et c'est pour ça aussi que Samuel Legitimus a ce mérite-là de porter cette cause depuis 1993, au moment où il, enfin, depuis avant, mais quand il crée le collectif James Baldwin, c'est en 1993. Et lui, avec ses petits bras, il essaie de faire comprendre aux gens, c'est important de le traduire, c'est important de lire, c'est important d'en parler, et les gens le regardent un peu genre, bon ben, quand est-ce qu'il va arrêter de nous saouler celui-là, jusqu'au moment où Raoul Peck arrive, et là tout le monde le sollicite, tout le monde dit, ah ben oui, mais on a un expert, James Baldwin, c'est Samuel Legitimus. Mm. C'est très bien, mais c'est vrai que c'est dommage parce que vaut mieux tard que jamais. Mm. Et c'est bien que les générations d'aujourd'hui et de demain savent qui était James Baldwin.
Tout à fait. Et justement, en parlant de If B Street Could Talk, si B Street pouvait parler en français, oui. Il y a une adaptation justement de cet ouvrage qui est sorti, je crois que l'année dernière.
Mm-hmm. Et en 2018.
En 2018. Oui. Et tu as eu l'occasion justement d'interviewer justement les deux acteurs principaux en fait. Et c'était du coup Stephen James
et Kiki Layne. Ouais.
Et du coup, est-ce que tu pourrais évoquer avec nous les échanges que tu as eus avec eux, et est-ce que ce film a été l'occasion aussi pour eux de redécouvrir ou de découvrir James Baldwin?
Oui, donc tous les deux, ils sont tous les deux dans leur vingtaine, hein, ils sont quand même très 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 jeunes, et c'est vrai que tous les deux m'ont confirmé qu'ils n'avaient pas lu James Baldwin avant, même si Stephen James me disait qu'il l'avait vu à la télé, qu'il avait vu des discours, qu'il avait vu et tout ça, mais qu'ils n'avaient pas lu James Baldwin. Et que effectivement lire James Baldwin, ça a été pour eux quelque chose de très fort. Stephen James, c'est vrai que c'était très particulier, parce que donc Stephen James, qui joue le rôle du garçon dans le film, donc Phony, Phony qui est accusé injustement d'un délit qu'il n'a pas commis et qui est emprisonné à cause d'un policier qui lui en veut, etc. Et donc il joue Phony, et il m'expliquait que pour jouer ce rôle-là, il s'est beaucoup inspiré de l'histoire de Caliph Broder. Donc Caliph Broder, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce jeune homme noir américain qui est arrêté à l'âge de 17 ans parce qu'il aurait volé un sac à dos. Donc illico, il est mis en prison. Sa famille ne pouvant pas payer la caution, il reste en prison et il y reste pendant quand même 3 ans. Au bout de 3 ans, il se fait violer en prison. Au bout de 3 ans, on se découvre qu'il est innocent et il sort de prison. Il sort de prison au bout de 3 ans, il est complètement cassé, il est complètement fracassé. Et 2 ans après sa sortie de prison, il se pend dans la cuisine de la maman, dans la cuisine de sa mère. Il avait que 22 ans. Et cette histoire-là, effectivement, qui a été racontée, on peut trouver une mini-série documentaire qui a été réalisée par Jay-Z sur Netflix encore, sur l'histoire de Caliph Broder. Et c'est vrai que Stephen James m'expliquait qu'il s'est beaucoup inspiré de cette histoire, qu'il avait fortement marqué, parce qu'en fait, il se sentait proche de Caliph Broder en âge, et puis bien sûr parce que lui aussi, jeune homme, noir, etc. Et ça l'a beaucoup inspiré, et je sais que lorsque je lui parlait de ça, il me dit oui, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis acteur et que demain je serai peut-être un peu connu, mais aujourd'hui je suis acteur, mais si demain un policier blanc me demande mes papiers, ou si j'ai une interaction avec un policier blanc, il ne verra pas que je suis un comédien connu, il verra juste un jeune homme noir, et ce qui est arrivé à Caliph Broder peut m'arriver à moi aussi. Donc c'est comment est-ce qu'effectivement il a essayé comme ça de comprendre cette situation, la situation de Caliph Broder, en disant oui, je suis Phony, donc en s'en référant au rôle titre qu'il jouait, au rôle de qu'il jouait, et je suis Caliph Broder, en parlant de Caliph Broder. Je suis Phony, je suis Caliph Broder. C'était très important pour lui. Pour Kiki Layne, ce qui était important pour elle, c'est de resituer la douleur des familles, puisque elle joue Tish, donc Tish qui est la fiancée de Phony, qui est enceinte, on prépare leur mariage, et puis ce drame surgit et Phony se retrouve en prison. Et c'est comment est-ce que ceux qui restent subissent cette injustice, subissent cette violence, qu'elle soit judiciaire ou qu'elle soit policière. Et elle portait plutôt un regard là-dessus, c'est comment est-ce que ceux qui restent, Comment est-ce qu'on accompagne ceux qui restent? Comment est-ce que ceux qui restent créent des solidarités pour tenter de ne pas sombrer? C'est comment est-ce que, voilà, c'est porter le regard sur la famille et sur, voilà, sur comment est-ce que ce système de racisme systémique impacte les familles. Et quand on voit justement la sœur Assa Traoré ici en France qui porte son frère encore sur ses épaules 4 ans après sa mort pour tenter de demander justice et vérité pour la mort de son frère, c'est ça aussi, c'est comment est-ce que cette famille n'arrive pas à se reconstruire quand en plus les médias ne cessent de la présenter comme une famille de délinquants, une famille de voyous, quand en plus la famille ne cesse de délégitimer leur combat, quand la famille ne cesse de rabaisser la victime morte qui est Adama Traoré. C'est voilà, c'est comment est-ce que ces familles font le deuil. Je parle d'Assa Traoré, mais on peut parler de toutes ces autres familles effectivement qui ont subi ces douleurs et ces difficultés. Comment se mettre à la place de ces familles pour tenter de continuer à vivre malgré le drame atroce de perdre quelqu'un, soit parce qu'il est mis en prison injustement, soit parce qu'il est tué directement. Et Tish, elle était très Tish, jouée par Kiki Lynn, était très, en tout cas, motivée, était très sensible à cette question-là.
Tout à fait, ça se ressent vraiment à l'écran, parce que honnêtement, j'ai eu l'occasion de voir le film deux fois au cinéma.
Il est magnifique.
Il est vraiment très, très émouvant. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup avec toi, Éléonore, c'est que t'es vraiment, comme je t'ai dit, tu mets vraiment ton cœur dans ce que tu fais. t'es très engagée dans ce mouvement-là. Et je voulais te demander, du coup, pourquoi tu as décidé d'intégrer ce collectif?
Alors, moi, je suis plutôt une compagnon de route, parce qu'il y a vraiment des gens qui travaillent au quotidien dans le collectif et tout. Moi, j'accompagne un peu le mouvement. Mais c'est vrai que oui, c'est le message. Alors bon, la personnalité de Samuel aussi, il est pour beaucoup. Mais c'est vrai aussi que, oui, le message qui est porté par tout cela m'intéresse. Et je pense, je suis, moi, qui ai un peu navigué un peu dans le politique, un peu dans le militantisme et tout ça, je suis absolument persuadée que le culturel est important. Et Samuel porte ça au sein de son collectif. Avec ce collectif, il porte la culture noire dont on sait pas grand chose, dont on a oublié beaucoup de choses. Il porte ça et moi, ça m'intéresse fortement. Ça m'intéresse fortement parce que moi aussi j'apprends, parce qu'il y a des choses que j'ai des sensations, parce que j'en ai entendu parler quand j'étais jeune ou j'ai pas creusé et tout. Et donc ça me permet justement de creuser, ça me permet d'aller plus loin et ensuite faire le lien avec d'autres, c'est d'autant plus valorisant et gratifiant. Donc c'est important effectivement de soutenir un collectif comme celui-là, parce que c'est comment est-ce qu'on parle d'une culture qui a été oubliée, qui a été mise de côté, et comment est-ce que oui, quelqu'un comme Samuel en parle très très bien. Donc c'est important et moi je suis très contente d'accompagner ce collectif.
Tout à fait, ça se voit et honnêtement c'est vraiment super. Et justement, tout à l'heure tu faisais allusion à la culture, est-ce que tu trouves que les jeunes actuels ont une certaine méconnaissance de la culture, et à ton avis, si c'est le cas, à quoi c'est dû en fait?
Ben alors, il y a quelqu'un il y a pas très longtemps qui me disait oui, c'est aux parents de transmettre. C'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir un père. Mon père a été journaliste, a été professeur. Chez nous, il y avait des bouquins partout. Il y avait de la musique partout, donc c'est vrai qu'on n'avait qu'à tendre un bras pour écouter Charles Aznavour ou bien Ella Fitzgerald, ou bien enfin ça passait de la musique française au jazz, du jazz en plus, des jazz parfois très improbables, parce que j'ai Jean-Luc Ponty, enfin bon, j'ai des noms comme ça, Jean-Luc Ponty, je suis sûre qu'il y a plus personne qui sait qui est Jean-Luc Ponty, qui est un Français qui a immigré aux États-Unis très très vite et qui a fait du jazz. Et voilà, on avait des disques de Jean-Luc Ponty à la maison. Donc on passait comme ça de l'un à l'autre, à bien sûr aux Supremes, enfin à Marvin Gaye. On était noyés là-dedans. Et la littérature, c'est pareil. C'était Victor Hugo, mais c'était aussi Black Boy. Donc moi, j'ai eu la chance d'être construite par ça. Et ça, c'est quelque chose qui je me rends bien compte que c'est un privilège, c'est quelque chose de, voilà, c'est pas commun à tout le monde, c'est pas, enfin, dans nos communautés, en tout cas, où on a, je sais que c'est pas tout le monde qui a pu vivre dans ce cadre-là. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup aussi de jeunes qui n'ont pas eu ça. J'en parlais avec avec une comédienne connue il n'y a pas très longtemps où elle m'expliquait c'est pas grave mais parce que effectivement très souvent les parents n'avaient pas la télévision, les parents ne lisaient pas, les parents etc. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que bon à l'ère d'internet on n'a peut-être pas besoin d'avoir les journaux à la maison ou les livres, mais quand même c'est vrai aussi que ce qu'on peut lire de façon superficielle sur internet, c'est bien de l'approfondir avec un livre. Donc je comprends aussi que l'amour de la culture c'est aussi une transmission. C'est-à-dire que c'est vrai que comme je le dis, mon père nous a moi il me permettait d'assister lorsqu'il recevait ses amis et qu'il refaisait le monde, j'étais toute petite et j'avais le droit d'écouter. C'était pas Éléonore, sors de là, t'es une fille, t'as pas. Non, au contraire, je disais rien ou j'avais le droit d'écouter les adultes qui parlaient. Et je sais que dans certains milieux, dans nos milieux, c'est pas toujours évident. Les parents envoient les enfants se coucher ou bon. Donc, je pense qu'il y a cette, il faut la volonté aussi de l'environnement pour accompagner ça. En ce moment, je fais à côté de toutes mes activités, je fais du ce qu'on appelle du monitoring, c'est que je suis comment on appelle ça? Alors il faut que je trouve le bon nom. Je fais partie d'une organisation qui accompagne des jeunes je vais trouver le mentor. J'ai trouvé, c'est mentor. Donc je suis mentor dans une organisation qui accompagne comme ça la reconversion de jeunes, de plus ou moins jeunes qui veulent s'orienter vers d'autres métiers. Et là j'accompagne une jeune femme qui est en Afrique et qui en fait aimerait se spécialiser dans le partenariat, dans le marketing, etc. Et les échanges que nous avons, elle me dit oui, mais je fais un métier aujourd'hui. Lorsque j'en parle à mes parents. Mes parents ne comprennent même pas ce que je fais. Ils me disent, mais pourquoi tu fais même ça là? Trouve-toi un mari, marie-toi. Pourquoi tu fais ça là? C'est pas ça qui va te trouver le mari. Et donc, elle a 25 ans, elle est absolument désespérée parce qu'elle sait pas vers qui se tourner pour en parler. Et donc, elle s'est inscrite dans ce programme pour effectivement ouvrir un peu son horizon et pour avoir un autre son de cloche. Parce qu'effectivement, avec son environnement immédiat, en fait, on lui aurait dit, reste là, ne dis rien, et puis attends qu'un monsieur vienne nous apporter un bœuf et des moutons, et puis comme ça tu pourras aller te marier. Enfin, j'ai une caricature, mais c'est à peine ça, quoi. Et elle est absolument... Et donc, on a des discussions absolument enrichissantes, et moi je lui dis, mais écoute, justement, peut-être aussi que c'est toi aussi qui n'arrive peut-être pas à faire comprendre ce que tu fais. Donc, essaye de rendre ton discours le plus clair possible, prends ta famille comme test, et de façon à ce que quand tu iras devant une clientèle ou je ne sais où, tu auras en tout cas des arguments plus sûrs et plus adaptés pour pouvoir affirmer ce que tu fais. Et c'est ce qu'elle fait, et bon, on est dans une construction, dans cette construction de tout cela, mais c'est pour dire qu'effectivement, très souvent, les familles n'aident pas à l'épanouissement des enfants. Et donc, quand effectivement on a des familles qui sont là, qui sont des freins, ça va pas forcément booster les gens à aller lire un livre, à aller écouter une musique, ou bien alors après les gens s'enferment. Les gens s'enferment dans une musique XY, dans un genre, le cinéma c'est encore, là encore c'est très compliqué, mais dans un genre de musique, dans un genre de narration, parce qu'il faut aussi une narration ouverte. Moi, je me souviens de mon père lorsqu'il parle d'Aimé Césaire, il parle pas d'Aimé Césaire le poète, il parle d'Aimé Césaire l'homme politique, qui pour lui a trahi lorsqu'il a accepté la départementalisation. Donc moi, je suis gamine à l'époque, je dis oui, d'accord. Et quand après j'entends qu'Aimé Césaire, c'est le grand homme, le grand poète, l'écriture, etc. Je dis, mais mon père, il pensait que c'était quand même quelqu'un qui avait... Donc forcément, tu mets ça en perspective et tout ça, c'est vachement enrichissant parce que forcément, la vision que mon père en avait, c'était pas pour avoir un irrespect pour la personne d'Aimé Césaire, mais c'est parce que dans son mode de fonctionnement, il y avait un questionnement sur c'est quoi devenir noir. Et on était au fin fond de l'Afrique quand on parlait de ça. On n'était pas ici en France. Donc, c'est comment est-ce qu'effectivement on essaye comme ça d'être ouvert sur le monde, d'où qu'on soit, où que l'on soit, pour avoir un autre son de cloche et pas rester enfermé dans une petite communauté familiale ou tribale ou je ne sais quoi.
Tout à fait, et honnêtement, c'est vraiment important justement que tu rappelles toutes ces choses. Alors malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin.
Bien sûr.
Et on arrive à la fin du podcast. Et je voulais te demander pour conclure, pourquoi tu avais accepté de participer à ce podcast et si tu avais un dernier mot justement à dire aux jeunes, aux afropolitaines et à toutes les autres personnes qui nous écoutent.
Non, en tout, c'est vrai que moi, de toute façon, dès lors qu'on m'invite pour parler, je tout de suite. J'ai toujours peur de parler en public. Je suis une traqueuse, pas possible et tout ça. Mais je dis oui d'abord et ensuite je me dis bon, comment ça va se passer, comment est-ce quelle dynamique je vais mettre en place, etc., etc. Donc moi, tout de suite, ça m'a intéressé. Voilà, de porter comme ça une parole. Et puis c'est vrai que je commence à me faire un peu connaître avec mon émission de radio et puis là avec ce que je fais à Diva, donc et donc il y a des gens qui me repèrent un petit peu mais qui me connaissent pas forcément et donc c'était aussi une occasion comme ça de me présenter à eux et de voir un peu que je mange personne et que je suis quelqu'un de très sympa.
Je confirme en tout cas.
Et puis pour le dernier mot, oui, c'est-à-dire que ce que je trouve aussi intéressant dans la démarche que tu inities là, c'est que on est de plus en plus nombreux maintenant de nos communautés à faire connaître comme ça des personnes, à faire connaître notre culture et à faire connaître des personnes. C'est vraiment très important parce que enfin on a l'impression que la parole est nôtre. On ne parle plus à notre place, on peut parler nous. Et ça c'est très important. Il faut le faire avec beaucoup de sérieux. Ce que tu fais, c'est vraiment top. Merci. Mais beaucoup d'autres le font aussi de plus en plus maintenant. Il faut accompagner ça. Et puis, comme je le disais aussi, c'est parce que ça permet justement de déverrouiller un peu. Parce que je trouve qu'on est... quand je lis les réseaux sociaux, parfois, j'ai beaucoup de copains que j'adore, mais il faut qu'on sorte un peu de nous, quoi. Le débat sur Autant n'emporte le vent, moi, je l'ai regardé 10 fois et je le regarderai encore 10 fois et j'adore Autant n'emporte le vent. Je suis une romantique indécrottable et tout. J'ai moins aimé la suite, mais bon. Voilà, le débat autour de oui, mais noir, blanc... Oui, c'est important. Il faut déconstruire. Mais si on veut accompagner cette déconstruction, il faut aussi qu'on soit ouvert. Il faut aussi qu'on soit ouvert sur les autres, sur d'autres, sur la culture, sur le monde de la culture. Lire des livres, oui, mais tous les livres. Pas seulement Tchekanta Diop, pas seulement Senghor, pas seulement Aimé. Il faut lire tous les livres. Il faut aller au cinéma, oui, mais pas seulement voir Il a tes yeux ou je ne sais quel autre film. Il faut voir tous les films. Il faut écouter de la musique, oui, mais pas seulement Curtis Mayfield que j'adore ou pas seulement Manu Dibango. Non, il faut écouter tous les genres de musique, etc. Le théâtre, c'est pareil. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on arrive aussi à appréhender l'autre, si je puis dire, parce qu'on a longtemps été nous aussi l'autre. Mais comment est-ce qu'on appréhende les autres ou l'autre, et c'est comme ça qu'on peut cheminer ensemble et trouver des moyens de déconstruction de ces notions de race, de cette tension raciale qui revient aujourd'hui en France mais partout. C'est comme ça qu'on arrivera à déconstruire. Si on reste comme ça sur nos petits principes et tout, je pense qu'on va pas très loin. Je pense que c'est important tout ça. La culture, c'est très important.
Totalement, et je te remercie en tout cas d'être une belle ambassadrice de la culture, je vais y arriver.
Merci en tout cas de m'avoir invitée, c'était vraiment sympa.
Merci beaucoup Éléonore, vraiment pour ta participation, et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.